Faire ici à la vie comblée, parce qu'on croit que la Bible est inspirée de Dieu. Et on ne veut pas juste lire la Bible comme on lit n'importe quel livre. Amen. Mais on sait, la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche, ce qu'on croit de cœur, s'accomplit. Donc on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Amen. Donc, si vous voulez aller avec moi à 1 Pierre chapitre 3, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de parler de quelque chose vraiment passionnant. On va parler de la puissance d'une vie heureuse. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une vie heureuse? Ah, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient mieux être tristes? Non, personne. Donc, je pense que vraiment le message s'applique à tout le monde. Tout le monde est à la recherche du bonheur. Tout le monde veut être heureux dans la vie. Tout le monde veut avoir la joie de vivre. Mais combien de vous savez qu'il n'y a pas grand monde en réalité qui est satisfait avec la vie? Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train de vivre la frustration, la déception, la douleur, toutes sortes des affaires, des émotions qui ne sont pas, selon ce que je vois dans la parole, ne sont pas vraiment la volonté de Dieu. Donc, on va lire un verset que j'aime beaucoup. Et ça, depuis des années, ça a été un passage que j'ai toujours aimé. Mais 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Et je crois que, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est qu'il est important, c'est la volonté de Dieu qu'on soit heureux. Et c'est important qu'on soit heureux, pas juste pour nous-mêmes, c'est pas juste notre bonheur qui compte, mais notre bonheur va créer une atmosphère dans laquelle les autres personnes dans notre entourage vont découvrir la vie éternelle. Donc, enfin, verset 8 de 1 Pierre chapitre 3, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Déjà, on pourrait arrêter là et faire tout un mois de prédication sur ce verset-là. Mais verset 9, « Ne rendez pas mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux. Soulignez cette phrase, voir des jours heureux. Vous savez que Dieu veut que vous soyez heureux. Ce n'est pas le plan de Dieu que vous soyez triste, que vous soyez déprimé. Dieu veut que vous soyez heureux. Et s'il y a quelqu'un sur la planète qui devrait être heureux, c'est les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas si les enfants de Dieu sont toujours ceux qui sont le plus tristes, le plus déprimés. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose. Et moi, je sais, hein, je fais attention quand je dis cela, parce que je sais c'est quoi d'être déprimé. Moi, je viens d'une famille qui a une longue histoire de dépression aussi. J'ai des membres de ma famille proche. Moi-même, j'ai eu des luttes avec cela dans le passé, etc. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut tomber dans cette situation. Mais laisse-moi vous dire que le plan de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour vous et pour moi, c'est qu'on soit joyeux et aussi qu'on soit heureux dans la vie. Et il est important, et on va voir ce matin, peut-être même dans les semaines à venir, les principes qui sont indispensables pour trouver le bonheur. Donc, regardons bien que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez quoi? Heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs. Et voici pourquoi, une des raisons pour laquelle, pas la seule raison, mais une des raisons pour laquelle Dieu veut qu'on soit heureux, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, qu'est-ce que je vois dans cela? C'est que le norme dans la vie chrétienne, c'est qu'on devrait vivre une vie qui va provoquer les questions chez les non-croyants. Les gens autour de nous devraient nous poser des questions. Pourquoi est-ce que vous êtes si heureux? Qu'est-ce que vous fumez? Hein? Je sais, combien de vous avez déjà eu cette expérience, hein? Vous êtes juste rempli de l'esprit, rempli de joie, et les gens disent, qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que vous fumez quelque chose? Ou, on a vu ça le jour de Pentecôte même, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler en langue, les gens disent, hey, je pense qu'ils sont vides, quelque chose. C'est un peu bizarre la façon qu'ils agissent, qu'est-ce qu'ils font, mais laisse-moi vous dire, Dieu veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit rempli de joie, et notre joie doit être évidente, notre bonheur devrait être évident pour les autres personnes qui nous entourent. Les gens devraient poser la question, pourquoi est-ce que vous avez une espérance? N'avez-vous pas lu les journaux? Est-ce que vous n'avez pas entendu à la télévision qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'il y a les guerres, il y a les crises, il y a les famines, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a des problèmes avec l'économie, il y a des maladies qui se promènent. Le monde est pourri. Mais nous avons une espérance. Et malgré tous les problèmes, malgré toutes les déceptions qu'on peut vivre, Dieu veut qu'on soit heureux. Amen. Mais regardons, le monde cherche le bonheur. Et j'ai même regardé quelque chose l'autre jour. C'était une chose écrite par une association canadienne pour la santé mentale. Et c'est un article qui est bien intéressant. Il parlait du bonheur. Il parlait de comment choisir même le bonheur. Et qu'est-ce qu'on va voir, c'est qu'ils ont découvert des principes bibliques. Peut-être par hasard, ils sont en train d'appliquer certains principes bibliques. Il y a des éléments clés, par exemple, qui manquent dans leur affaire, mais quand même, il y a des choses qui sont bonnes. Écoutez ceci. Le bonheur se caractérise par une sensation de bien-être général, par un état de satisfaction, tout le monde dit satisfaction, face au moment présent. Amen. Beaucoup des gens, ils disent, oh, j'étais heureux dans le passé, ou je vais être heureux dans le futur. Mais ils sont pas heureux maintenant, ils sont toujours misérables. C'est toujours passé ou futur, c'est jamais présent. Dieu veut qu'on soit heureux maintenant. Amen. Satisfaction face au moment présent. Les études ont démontré que les gens heureux ont de l'estime pour eux-mêmes, mais on sait que c'est difficile d'avoir l'estime pour soi-même si on ne connaît pas Dieu. Et on ne sait pas qu'on est créé par Dieu pour Dieu et que nous sommes créés en son image, à sa ressemblance, n'est-ce pas? Et le sentiment de contrôler leur vie. Mais vois-tu, on veut pas avoir l'impression qu'on est hors contrôle. Mais la seule façon d'avoir le vrai contrôle de votre vie, c'est de donner le contrôle à Dieu et d'être dirigé par lui, n'est-ce pas? Ils se connaissent, ont conscience de leur valeur et ont une idée claire de ce qui leur convient. Quand on est heureux, on ressent de la paix et de la joie face à la vie et à notre existence. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce qui se passe dans le présent, on peut quand même avoir une paix, on peut avoir une tranquillité du cœur, même si les choses vont mal autour de nous. Amen. Plusieurs personnes croient à tort. Et voici, c'est des non-croyants qui sont en train d'écrire. Personne croit à tort que le bonheur tombe du ciel, alors qu'en fait, on se le crée à chaque instant de notre vie par les choix et les attitudes que nous adoptons. Tout le monde dit les choix et les attitudes. Moi, j'y crois. Ils ont raison. Ils ont raison et ils ont tort tout à la fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment trouver le bonheur sans trouver Dieu. On ne peut pas être heureux dans la vie si on ne connaît pas le Seigneur Jésus. On peut avoir un certain bonheur naturel, temporel, qui marchera pas pour longtemps ou qui est, on pourrait dire, conditionnel. Mais si on veut un bonheur et si on veut être heureux d'une façon constante et inconditionnelle, il faut que le bonheur soit fondé dans notre relation avec Dieu. Amen? Mais quand même, je pense que c'est important de voir que le bonheur ne tombe pas du ciel, ça ne dépend pas de nos circonstances. Combien de personnes, ils ont la maladie de la destination. Un jour, si seulement je peux trouver un homme ou trouver une femme, là, je vais être heureux, enfin. Ou si je gagne plus d'argent, ou si je gagne le loto, un jour, je vais être heureux. Ça ne marche pas comme ça. Le bonheur, être heureux dans la vie, c'est une chose qui arrive quand on prend les bonnes décisions et quand nous avons les bonnes attitudes. Et on peut avoir deux personnes avec les mêmes circonstances, identiques. Et une personne va être heureuse et l'autre personne va être dans la misère. Pourquoi? Parce qu'une personne a un verre d'eau qui est à moitié rempli et l'autre personne a un verre d'eau qui est à moitié vide. Je posais la question à un de mes enfants l'autre jour. Hein, si j'avais deux verres identiques et une verre était à moitié rempli, l'autre était à moitié vide, lequel aurait plus d'eau dedans? Et juste comme ça, il a dit, mais celui qui est à moitié plein. Pourquoi? Mais c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai, mais il nous semble. C'est ça l'impression que ça nous donne. Une bonne attitude de bonheur exagère même les bénédictions de Dieu. Amen? Mais une mauvaise attitude exagère les problèmes. Et on peut faire une boule de neige avec une chose qui, oui, c'est un problème. On nie pas l'existence de nos problèmes. On vit, Jésus l'a dit, n'est-ce pas, que dans ce monde, vous aurez quoi? La tribulation. Dans ce monde, c'est une promesse. On vit dans un monde infecté par le péché. Il y a des tribulations qui s'en viennent. Vous serez même peut-être persécutés pour votre foi. Il y a plein de choses qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément les situations heureuses. Mais au plein milieu de ces situations, on peut être heureux et avoir le bonheur. Amen? Alléluia. Mais comme je dis, dans vos notes, la première chose qu'il faut vraiment comprendre, il faut comprendre la source de notre bonheur. C'est pas notre situation, c'est pas les autres qui nous entourent. Vous savez, un grand problème chez beaucoup, beaucoup de gens, même chez les chrétiens, c'est que leur bonheur se trouve dans la tête d'une autre personne. Regarde, quelqu'un a dit, mon bonheur ne se trouve pas dans la tête de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Hein? Combien de personnes? Ils ne sont pas heureux si les autres dans les, qui les entourent ne sont pas heureux ou contents d'eux. Hein? Si quelqu'un nous donne le moindre critique, « Oh, mais lui, il pense que je suis... Oh, » et on est tellement inquiet à cause de ce que les autres pensent de nous. Mon bonheur ne se trouve pas dans votre tête. Et j'espère que votre bonheur ne se trouve pas dans ma tête. Dans le fond, ça ne serait pas si pire parce que je vous aime. Mais vous comprenez, c'est dangereux. Ça marche seulement quand les personnes qui nous entourent sont de bonne humeur. Ils ont pris la bonne décision eux-mêmes et ils ont une bonne attitude. Mais si nous sommes entourés par des personnes qui ne marchent pas dans l'amour, qui n'ont pas une bonne attitude et qui ne sont pas de bonne humeur, ça marche vraiment mal. Parce que souvent, on est entouré par des personnes qui ne sont pas forcément impressionnées par nous. Par notre présence, par notre look, par nos paroles, nos gestes, ils sont pas impressionnés. Au contraire, il y a souvent des personnes, et surtout, laisse-moi vous dire, ceux et celles qui sont dans une position de leadership, qui sont en avant, qui parlent publiquement, et que ça soit un premier ministre, que ça soit un pasteur ou quelqu'un d'autre, laisse-moi vous dire, vaut mieux pas avoir votre bonheur dans la tête de quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, après la réunion, il est fort probable qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, oh, pasteur, c'était vraiment un bon message. » Et je peux dire « Oh, waouh, je suis content, les gens ont aimé le message. » Mais qu'est-ce que je vais faire s'il y a un couple de personnes qui disent « Ah, mais je n'ai pas vraiment reçu grand-chose. » Là, je vais aller pleurer toute l'après-midi. « Oh, c'était horrible. Oh. » Laisse-moi vous dire, j'ai déjà passé, pas j'ai jamais pleuré de même, mais je prêche l'Évangile depuis l'âge de 17 ans. J'ai dû apprendre des choses. Que peu importe, aussi longtemps que Dieu est content de ce que j'ai fait. Si j'ai prêché ce que Dieu m'a demandé de prêcher, et j'ai fait tout mon possible pour donner le message avec tout mon cœur, avec toute la compassion que j'ai en dedans de moi, et j'ai obéi à Dieu, c'est tout ce que je peux faire. Et si les gens sont contents, tant mieux. Mais si les gens ne sont pas contents, tant pis. Mais vous comprenez, Dieu, Papa, la seule chose qui compte vraiment, c'est Père, est-ce que tu étais heureux aujourd'hui? Est-ce que tu étais content de qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu as approuvé le message aujourd'hui? Et si mon papa aussi a dit oui, c'était bon. Là, c'est tout ce que j'ai besoin de, pour être heureux. Amen. Alléluia. Bien entendu, c'est beaucoup plus de fun quand tout le monde est emballé et tout le monde est content et dit, hey, j'étais vraiment béni, j'étais vraiment nourri. Tant mieux, c'est ça que je veux. Et c'est ça que Dieu veut aussi, n'est-ce pas? Il veut que vous sortiez de l'église rempli. Amen. Et c'est ça que, qui va être le cas, je crois, aujourd'hui aussi. Mais la source de votre bonheur, c'est pas vos amis, c'est même pas votre conjoint, c'est pas votre travail, c'est pas votre argent, c'est pas vos rêves, c'est pas votre histoire, c'est rien de ça. La source de votre bonheur est seulement et uniquement Dieu lui-même. Dieu est la source de notre joie. Et en verset, et j'ai partagé un peu ces choses à mercredi soir. Et j'ai lutté un peu avec ça pour dire la vérité, parce que j'ai vraiment eu d'autres choses dans ma tête que je voulais prêcher ce matin, mais plus je priais, c'est comme non, je croyais vraiment qu'il y a un couple de points que j'ai fait mercredi soir que la plupart de vous, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas entendu, le Seigneur m'a mis vraiment dans mon cœur que j'avais besoin de reprendre un verset que j'ai partagé mercredi soir et le partager avec vous. Puis, on va aller plus à fond ce matin. Mais verset 24 de Acte 17, on voit quelque chose concernant la source de notre bonheur. On voit un discours de l'apôtre Paul qui il est en train de prêcher aux jeunes d'Athènes dans une ville qui ne connaissait pas du tout Dieu, une ville pleine d'idoles, etc. Mais en verset 24, il a dit quelque chose. Il a dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, soulignez le mot la vie, la respiration, tu peux souligner respiration, et toute chose, soulignez cela. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toute chose. Et puis verset 28 dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous savez, il faut qu'on connaisse Dieu. Si on veut être heureux dans la vie, il faut connaître l'auteur du bonheur. Dieu, je suis convaincu, n'est pas un Dieu triste. Au ciel, le Seigneur n'est pas en train de pleurer maintenant. Hein, laisse-moi vous dire que Dieu le Fils ne fait pas la relation d'aide avec Dieu le Saint-Esprit. Parce que il est en train de découvrir qui il est et puis pourquoi les choses. Non, laisse-moi vous dire que Dieu, il est Dieu et Dieu est amour et le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu qui est heureux et je pense que même Jésus, c'est sûr qu'il peut être sérieux des fois. Il y a des choses sérieuses dans la vie aussi, mais laisse-moi vous dire que même Jésus, quand il était sur la terre, il y avait des moments où il a tressailli de joie. Il était rempli de joie. Et même, il y a des versets qui disent que le Seigneur, il rit. Donc, moi, je crois que Dieu est un Dieu de bonheur. Et trois choses qu'il faut absolument saisir ce matin, c'est que Dieu, c'est lui qui nous donne la vie. Ça, c'est simple, n'est-ce pas? Mais combien de fois est-ce qu'on est tellement occupé avec notre vie quotidienne, comme on dit, métro, boulot, dodo, on fait la routine de la vie, qu'on oublie le fait que juste mon existence, le fait que je vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu existe et parce que Dieu m'a créé et je suis le résultat de son plan. Amen. C'est Dieu qui nous donne la vie. Et Dieu ne nous donne pas juste l'existence. La vie est beaucoup plus que l'existence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui existent sur la planète, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a la vie aujourd'hui, selon Dieu. En fait, il y a un mot en grec pour le mot vie, c'est zoé. C'est un genre de vie que seulement Dieu peut donner. Seulement les enfants de Dieu peuvent expérimenter. Et ça, c'est la vie qu'il faut connaître. On connaisse tous la vie naturelle, mais Dieu veut qu'on connaisse la vie surnaturelle. C'est lui qui donne à tous la vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, le zoé de Dieu, et qu'elles soient dans l'abondance. Regardez-moi. Dieu veut que vous ayez la vie en abondance. Abondante! Alléluia! Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Peut-être votre expérience du passé, ça rend l'idée difficile à saisir. Ah, mais moi, je n'ai pas eu beaucoup de bonheur. Je n'ai pas eu beaucoup des jours heureux sur la terre. J'ai eu beaucoup de misère, beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs. Peu importe qu'est-ce que vous avez vécu, c'est Dieu qui vous donne la vie et la vie abondante. Et si on connaît Dieu et on connaît le prince de la vie, on peut être heureux et on peut devenir une source d'inspiration même pour ceux qui nous entourent. Regardons bien, 1 Timothée 6, 13 dit, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. » C'est Dieu qui donne la vie à toutes choses. Si quelque chose est en vie, naturellement ou surtout spirituellement, c'est parce que Dieu l'a créé. Que ça soit une plante, que ça soit un chien, que ça soit un cheval, que ça soit n'importe quoi, tout ce qui vit sur notre planète, dans notre univers, tout ce qui vit vient de Dieu. C'est lui qui est la source de vie. Amen. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Donc, c'est Dieu qui nous donne la vie. Deuxième chose qu'il faut vraiment saisir aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui nous donne la respiration. Est-ce que des gens qui respirent ici aujourd'hui? Si vous respirez, levez la main. Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Est-ce qu'on... 9-1-1, vite. On prend des choses pour acquis des fois, n'est-ce pas? C'est bon de respirer. Regardons ceci. Genèse 2, 7 dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. » Qu'est-ce qu'il a soufflé dans ses narines? Un souffle de quoi? De vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, je veux que vous voyez que le souffle de Dieu est la chose qui nous donne la vie. Alléluia! Et si vous ne respirez plus, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vivrez plus. Et ça, c'est une chose que c'est tellement simple. Combien de fois par jour est-ce qu'on respire? Je pense qu'on devrait être plus conscient du fait que juste le fait que je respire, c'est parce que Dieu m'aime et c'est parce que Dieu m'a créé. Amen. Seigneur, c'est par tes bontés. Ésaïe 38, 16 dit ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Pourquoi est-ce que je respire encore? C'est par tes bontés que je respire encore. Donc, si des fois vous pensez, mais Dieu n'était pas trop bon pour moi, est-ce que vous respirez encore? Dieu est bon pour vous. Amen. Et les autres choses que vous vivez qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas agréables, laisse pas l'ennemi vous séduire. C'est pas Dieu qui vous envoie des méchantes choses. C'est le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus est venu pour vous donner la vie. Amen. Vous avez un adversaire qui essaie de vous enlever le souffle, qui n'aimerait pas autre chose plus que de vous tuer et vous rendre misérable. Mais vous avez un Dieu tout-puissant qui vous donne encore le souffle aujourd'hui. Amen. Alléluia. Regarde bien. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Job 27, Job a dit quelque chose, il y a quelque chose en Job qui est vraiment intéressant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Mais aussi longtemps que j'aurai ma respiration. On ne devrait pas le prendre pour acquis. Puis, la troisième chose que Dieu nous donne, il donne à tous la vie, il donne la respiration, il donne aussi toutes choses. C'est Dieu qui nous donne toutes choses. Tout le monde dit toutes choses. Recommande, mais toutes choses, attention, toutes bonnes choses. Parce que Dieu ne donne pas les choses, toutes choses qui existent sur la terre ont été créées par Dieu. Mais malheureusement, à cause du péché, il y a des choses qui ont été corrompues. Même les roses, ça c'est pas une vraie fleur, mais des roses, aujourd'hui, on a les épines, n'est-ce pas? Mais si vous lisez Genèse, les épines ont poussé seulement après la chute d'Adam et Ève. seulement après que le péché est entré dans le monde. Au début de la création, il n'y avait même pas des épines sur les roses. Tout était beau, tout était belle. Et c'est ça qu'on va avoir encore dans le futur, n'est-ce pas? Il n'y avait pas du mort, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de douleur. Donc, toute chose, en fait, la Bible dit, Jacques, chapitre 1, verset 17, je crois, dit que toute chose, hein, tout don excellent, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières. Donc, si c'est une bonne chose, on sait que ça vient de Dieu. Amen. Si c'est une mauvaise chose, on sait que c'est une chose parce que Satan ne peut rien créer. Satan n'est pas créateur. Il ne peut pas créer quoi que ce soit. Il peut juste prendre qu'est-ce que Dieu a créé, la corrompre et la tordre pour nous faire mal. Amen. Mais c'est Dieu qui nous donne toutes choses. 1 Timothée 6, 17, on voit pourquoi il nous donne toutes choses. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec quoi? Avec abondance. Qu'est-ce qu'il nous donne avec abondance? Toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il les donne? Pour que nous en jouissions. Est-ce que vous voyez le bonheur de Dieu? La bonté de Dieu, je veux dire? Vous voyez jusqu'à quel point Dieu est merveilleux. Il est un papa. Il nous aime. Moi, j'aime mes enfants. J'en ai 5. Et laisse-moi vous dire, je vais rien faire pour les faire mal par exprès. Quel genre de père est-ce que je serais si je mettrais sur les assiettes de mes enfants les serpents? Hein, comme Jésus a dit. Lequel d'entre vous, si son enfant lui demande du pain, est-ce que tu vas lui donner une pierre? Ha, tiens, essaie de manger ça. C'est plein de minéraux. Quel d'entre vous, si son fils demande un poisson, est-ce que vous allez lui donner un serpent? Ah, vous voulez manger du doré, mais hey, j'ai quelque chose de mieux, un serpent venimeux. Hein? Ou s'il demande un œuf, est-ce que tu vas lui donner un scorpion? J'espère que tu es vite. Non. Si un père comme ça existe sur la terre, et ça se peut, si c'est parce que le père lui-même est dans la misère, il ne connaît pas Dieu et a sûrement eu toutes sortes de problèmes lui-même dans son enfance. Mais un père normal, même dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, un parent ne va pas faire mal par exprès à son enfant. Et si mon père terrestre ne ferait pas ça, si moi en tant que père terrestre, je ne ferais jamais ça, à combien plus fort raison je devrais croire que mon père céleste, il est infiniment plus bon que ça. Et il veut me donner des bonnes choses. Pas juste du pain, mais le meilleur pain. Pas juste du poisson, mais le meilleur poisson. Pas juste des œufs, mais les meilleurs œufs. Amen. Les meilleurs de toutes choses. Parce qu'il nous donne toutes choses pour qu'on puisse en jouir. Alléluia. J'ai partagé ça mercredi soir, mais il y a beaucoup qui n'étaient pas là, je vais le dire encore. J'ai eu vraiment une révélation de cela il y a bien des années, juste en mangeant une fraise une journée. Je mangeais une fraise, et c'était tellement bon, c'est sucré, juteux, c'était tellement délicieux cette fraise, que tout d'un coup, j'ai eu une révélation de la bonté de Dieu. Et je me suis dit, waouh, Père, tu es tellement bon, tu as créé ces fruits parce que tu nous aimes. Tu as créé cette fraise si délicieuse parce que tu m'aimes et tu veux que j'aie du plaisir en mangeant. Et j'ai eu la pensée, tu sais, Dieu est tout puissant, il aurait pu créer la nourriture qui était dégueu, comme les jeunes ont dit, hein? Qui était amère et rancide et « Ah, mais il faut le manger, sinon tu vas mourir. » Il aurait pu faire les choses de même, mais non, il est trop bon pour faire ça. Il a créé des bonnes choses pour notre plaisir. Il y a un autre verset, 1 Corinthiens 8:6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Romains 8:32, deuxième page. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose, mon Dieu, toute chose, avec lui? Vous savez, Dieu est la source de notre bonheur. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la respiration, et c'est lui qui nous donne toute chose. Et si on connaît Dieu, on ne manquera de rien. On va être heureux ici sur la terre. On va être si heureux que les gens vont nous poser la question, pourquoi est-ce que vous êtes si heureux? Amen. J'ai prêché ça mercredi soir, j'ai partagé cela parce que j'ai tellement en cœur d'atteindre cette ville avec l'Évangile. Je veux que cette ville soit touchée par la puissance de Dieu. Amen. Et je crois de tout mon cœur que Dieu veut faire quelque chose de grand à Drummondville, dans la province du Québec, dans la francophonie et au-delà. Mais si tous les chrétiens sont tristes, qui va vouloir venir à Jésus? Et j'ai prêché ça mercredi soir, j'étais tellement content, parce que même, je pense que c'est vendredi soir, j'ai amené mes deux gars avec Tanya, on est allé manger au restaurant, faire quelque chose de spécial, et puis après, en sortant, j'ai vu quelqu'un que je connaissais. Et je dis, « Hey, salut, comment ça va? » Je commençais à jaser avec lui, et tout de suite, il a dit, « Toi, tu as l'air tellement d'être bien avec toi-même. Tu as l'air heureux. » Je dis, « Wow, merci Seigneur, une porte ouverte. » Une porte ouverte. Amen. Donc, et c'est ça, je pense que ça devrait être le norme. Les gens devraient, comme je dis, vous poser des questions. Même si c'est qu'est-ce que vous fumez? Je fume rien. Mais, laisse-moi vous dire, je suis en amour avec Jésus. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et c'est lui qui me rend heureux. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est Dieu qui est la source de notre vie, il y a quand même quelques premiers pas qu'on devrait faire si on veut trouver le bonheur et si on veut avoir une vie heureuse. Si c'est Dieu qui nous donne la vie, si c'est Dieu qui nous donne la respiration et si c'est lui qui nous donne toutes choses et c'est lui qui est vraiment la source de notre joie et notre bonheur, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à sa bonté? Trois choses. Et je pense que si on commence à faire ces trois choses, qu'on n'aura pas assez de place dans cette église dans très peu de temps. Pourquoi? Parce que tout le monde va vouloir savoir qu'est-ce que vous faites. C'est où cette église que vous fréquentez? Moi aussi, je veux aller voir. C'est qui ce Jésus dont vous parlez? Moi aussi, je veux le connaître. Amen? Première chose, numéro un, très spirituel, célébrer la vie. Célébrer la vie! Alléluia! Vous savez que Dieu aime les célébrations? Tu as juste à lire l'Ancien Testament. Il y a une fête pour toutes. Toujours en train de fêter. Toujours en train de célébrer. Toujours en train d'avoir une partie. Au ciel, qu'est-ce qu'on va avoir? Hein? On va avoir un grand souper pour les noces de l'agneau. On va avoir une partie qui va durer je ne sais pas combien de temps. Parce qu'on sait qu'ici, sur la terre, les gens vont être 7 ans dans la tribulation. Mais au ciel et ici, sur la terre, le temps ne marche pas de la même manière. Hein? Avec le Seigneur, un seul jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un seul jour. Et ça va durer longtemps. On va célébrer longtemps au ciel. Alléluia. Moi, je crois qu'on va chanter. Je crois qu'on va danser. Je crois qu'on va manger. On va avoir du fun. Et comme les jeunes ont dit, la bouffe va être bonne. Est-ce que vous croyez à ça? Alléluia. Ça va être merveilleux. Mais vous savez, on n'a pas besoin d'attendre le ciel pour commencer la célébration. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est Dieu qui nous donne la vie, n'est-ce pas? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la vie éternelle ne commence pas au ciel. La vie éternelle commence le moment qu'on déclare avec notre bouche que le Seigneur est notre Seigneur, que Jésus est ressuscité des morts, et qu'on croit de notre cœur, et qu'on est né de nouveau. À ce moment-là, l'Esprit Saint entre en nous et fait de nous une nouvelle création. Et on peut célébrer cette vie dès aujourd'hui. Amen? Alléluia. Et regarde bien, il y a un verset que j'ai trouvé que j'aime tellement. Proverbes chapitre 11, verset 10. C'est puissant ce verset. Quand les justes sont heureux. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Alléluia! moi, j'aimerais que la ville de Drummondville soit dans la joie parce que la ville est remplie de chrétiens nés de nouveau qui sont pleins de bonheur, pleins de joie et qui laissent rayonner la vie de Dieu et qui sont en train de célébrer la vie à tous les jours. Et quand je dis célébrer la vie, je ne veux pas dire tout simplement venir à l'église, ça c'est bon, taper les mains et chanter des cantiques. Mais je veux dire que lundi matin, quand le cadran va sonner, c'est le temps d'aller au travail, au lieu de dire, pas encore, tu fais, oui, je suis encore en vie, je respire, alléluia. Dieu me donne encore une autre journée et je vais célébrer. Et quand vous prenez la douche, waouh, il y a de l'eau qui coule dans la maison. Wouh! Mes ancêtres n'avaient pas cette occasion, hein? Laisse-moi vous dire, hein? On était aux États-Unis en couple de semaines, et la dernière soirée qu'on était là, il y avait une tournade, et 450 000 personnes sans électricité pour à peu près 5 jours. Quand il fait 40 quelques degrés, 80% d'humidité, il fait chaud dans la maison, pas de climatisation, et pas de rien qui marche. Là, on dit, waouh, on est béni. On n'est pas seulement en vie, mais on vit en 2006. On a la climatisation dans les endroits. Je ne l'ai pas chez moi ici, mais il fait plus beau et plus frais au Québec. Vive le Québec, quand même. Ah, qu'on est bien ici, surtout les journées comme aujourd'hui. Mais on est en vie, on devrait célébrer la douche. Hein, vous allez manger, qu'est-ce que vous mangez pour déjeuner? Qu'est-ce que vous mangez pour déjeuner? Hein, les œufs, les céréales, quelqu'un a dit. Célébrez le lait qui vient dans un sac plastique. Gloire à Dieu, j'ai pas besoin d'aller tirer la vache aujourd'hui. Ouh, la vie est belle! Il y a tellement de choses, on devrait vivre au maximum. Chaque jour, chaque minute, on devrait célébrer. Trouver quelque chose de bon et célébrer. Amen. Tellement, des fois, on est trop sérieux comme chrétien. Et les chrétiens ont besoin, avec la sainteté, bien entendu, avec un cœur sanctifié, mis à part pour Dieu, on devrait être capable d'aller célébrer la vie. Appelez un ami, dit, hey, voulez-vous aller jouer au quilles aujourd'hui, ou aller jouer au golf, ou faire une journée de vélo, ou faire quelque chose, faire les loisirs. Savez-vous qu'il n'y a rien de méchant dans les loisirs? À moins que votre loisir devienne votre idole. À moins que vous aimez les loisirs plus que vous aimez Dieu. Mais qu'est-ce qui est de fun? C'est juste inviter Dieu de faire partir de vos loisirs. Au lieu de dire, bon, mais maintenant, c'est le temps pour Dieu. Je prie, là, je ferme la porte à Dieu, là, je vais faire ma vie. Jusqu'à dimanche matin, ou mercredi soir, là, je vais rouvrir encore la porte à Dieu. Non, à tous les moments, 24 heures sur 24, on devrait célébrer la vie. Amen. Avoir du fun, avoir du plaisir, avoir un bon temps avec vos enfants, avoir un bon temps avec si vous êtes mariés, célébrer votre mariage. Oui, mais mon mariage, des fois, mais peut-être votre mariage, des fois, c'est parce que vous n'avez pas célébré assez. Amen. Alléluia. Ça, c'est toute une autre histoire. Alléluia. Vous savez, Dieu est le créateur de toutes choses. Les chrétiens devraient être le plus heureux dans tous les domaines. Ne vous laissez pas, regarde bien dans mon note, ne vous laissez pas tourmenter par les échecs du passé et ne vous laissez pas effrayer par le futur. Mais au contraire, célébrez aujourd'hui. Combien de personnes, ils vont refuser de célébrer la vie aujourd'hui parce que ils ont des regrets. Ils ont eu des échecs dans le passé. Ouais, mais tu sais, j'ai échoué. J'ai eu de la misère. J'ai eu un temps difficile. Et on vit tellement dans le passé qu'on ne peut pas vivre dans le présent. Est-ce que vous êtes là? Ou est-ce que je suis la seule personne dans la salle qui a fait cela? Hein? Parce qu'on veut dire, je vais être honnête en tant que pasteur, il y a des moments où j'ai prêché les messages et je me suis dit dans mon cœur, je savais, ah, oh, ça, c'était pas vraiment bon. Hein? Comme mon pasteur a dit, on a trois genres de messages. On a les messages où on dit, oui, c'était vraiment un bon message. Les autres, c'est, oh, ben, c'était médiocre. Il y a d'autres messages, c'est brûle la cassette, que personne n'écoute ça. Et ça m'arrive des fois d'avoir des messages des dimanches du brûle la cassette, mais, et dans le passé, ça a gâché toute la journée et toute la semaine. J'étais, ah, oh, j'aurais dû dire cela ou j'aurais pas dû dire cela. Ah, oh, et c'est comme, ah. Oh. Et à cause de une heure de prédication, j'étais comme, toute la semaine. Bon, non. Non, je suis trop spirituel, je ne ferai jamais ça. Hein? Non, je partage mon cœur avec vous. Ou peu importe l'échec que vous avez eu, ça c'est une petite chose, des fois c'est une grosse affaire. Des fois c'est une bêtise ou un péché même qu'on a commis. Et à cause de ce péché, l'ennemi vient avec son film, son clip vidéo et il nous montre qu'est-ce qu'on a fait dans le passé et ça nous enlève la joie et on a de la difficulté à célébrer. Mais oublions ça, c'est sous le sang de Jésus. Si on s'est repenti, c'est parti, ça n'existe plus, amen. Et même chose, n'ayez pas peur du futur non plus. Trop souvent, on a peur de qu'est-ce que le futur va nous amener et à cause de notre crainte, on ne vit pas aujourd'hui. Et savez-vous qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de nuire votre futur parce que vous ne vivez pas dans le présent. Amen. Josué 1:9 a dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ça, c'est futur, n'est-ce pas? N'aie pas peur, je vais être avec toi, peu importe qu'est-ce que tu vas faire dans le futur. Si tu me suis, si tu restes avec moi, célébrer la vie. Célébrez aujourd'hui et ayez un bon temps. Amen. Je pense que la vie chrétienne n'est pas plate. Au contraire, c'est une aventure. Amen. Donc, célébrez la vie, numéro un. Deuxième chose, bien important, développez une vie de louange. Pour vous réveiller le matin, vous respirez. Qu'est-ce que le psaume 150 dit? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Vous savez, un autre verset dans les psaumes, qui dit que l'Éternel, il siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, plus vous louez Dieu, plus vous allez expérimenter la présence de Dieu dans votre vie. Amen. Donc, la louange est tellement importante. Il y a un verset que j'ai trouvé qui est tellement bon, parce qu'on parle ici, parce que Dieu nous a donné la vie, on va célébrer la vie. Parce que Dieu nous donne la respiration, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer une vie de louange. Mais verset 5 de Ésaïe 42, lisons ce verset, ce passage. « Ainsi par Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la quoi? Respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais regardons verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Et qu'est-ce qu'il dit qu'on doit faire, verset 10? Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitantes des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kedar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rend gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie, c'est quoi? C'est louange. Je pense qu'il y a quelque chose en lien. Le fait que c'est Dieu qui nous donne la respiration, le fait que Dieu dit que tout ce qui respire loue le ténèbre. Et on parle aujourd'hui de quoi? C'est quoi le sujet? La puissance d'une vie heureuse. Notre but, c'est d'être tellement heureux que le monde nous pose la question, pourquoi? Donc, pour que le monde commence à nous poser les questions, pourquoi? Je pense que oui, il faut célébrer la vie, chaque moment, de chaque instant, mais il faut aussi développer une vie de louange où on, sur une base régulière, pas juste dimanche matin, mais on loue le Seigneur. À chaque fois qu'on est conscient de sa présence ou une de ses bénédictions, on dit merci Seigneur, que tu es bon. Et louer le Seigneur, c'est deux choses. C'est à la fois vertical, quand on va dire Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. On est en train de conduire et on voit le coucher de soleil, on dit oh Seigneur, tu es merveilleux, regarde ta création. Amen. On se réveille le matin à côté de la personne qu'on aime, notre épouse, et on dit, « Oh Seigneur, tu es bon, tu m'as donné tellement une belle femme. » Amen. On se réjouit, on loue le Seigneur. La louange n'est pas juste spirituelle dans le sens que on pense des fois. Des fois, on pense que, comment je dirais ça, quand on loue le Seigneur, qu'il faut être religieux. Il faut dire, « Que tu sois glorifié, Seigneur. Hein, que tu sois magnifié. » Qu'on prend dans l'air religieux. Mais la louange, c'est un style de vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je m'en souviens, à l'âge de 17 ans, on faisait les bennes. Vous savez c'est quoi les bennes avec l'auto quand on conduit sur la neige ou la glace et puis on tourne le volant et on spin l'auto. Moi, je faisais des bêtises de ça, comme ça aussi. Mais je faisais ça tout rempli du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur, c'est de fun la vie. Gloire à toi. Pas trop religieux, vous êtes d'accord? Pas trop religieux. Et je ne suis pas en train de vous conseiller à faire cela, hein? Là, les parents des ados vont venir me voir et dire, « Hey, vous êtes en train, qu'est-ce que vous dites là? Donne pas des idées. » Mais la louange, c'est vertical parce qu'on loue Dieu, mais c'est aussi horizontal parce qu'on peut louer Dieu aux autres aussi. On peut parler de ses bienfaits. On peut dire à quelqu'un, « Tu sais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? » Ça, c'est la louange. Tu sais, Dieu m'a guéri, ou Dieu m'a béni avec une famille, ou Dieu m'a donné l'espérance, j'étais déprimé, maintenant j'ai trouvé la joie, le bonheur, il a tout changé ma vie. Ça, c'est la louange. Et la louange est un témoignage. La louange, c'est un outil puissant pour gagner les perdus au Seigneur Jésus. Quand le monde voit l'Église en train de louer, moi, je crois que juste le fait de venir dans une assemblée et voir une congrégation en train de louer le Dieu puissant, ça, c'est un témoignage hors pair. Vous êtes d'accord? Mais c'est aussi bon sur le plan individuel. Ils voient que vous êtes en train de louer le Seigneur et de louer ses œuvres devant eux et de parler de sa bonté, de parler de ses bienfaits sur une base régulière. Amen? Et que dans les îles, on publie ces louanges. On va publier, on va faire on va faire le pub. Hein, comme Jean-Charles disait aux jeunes, on va faire le pub pour Jésus. Amen. Et la meilleure façon de faire le pub pour Jésus, c'est de parler de lui et de parler de qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce qu'il fait pour nous encore. Amen. Puis, troisième chose qu'on peut faire. Si c'est Dieu qui nous donne la vie, on va célébrer la vie. Parce que c'est Dieu qui nous donne la respiration, on va louer, on va développer une vie de louange. Et c'est parce que Dieu qui nous donne toutes choses, on va avoir un cœur reconnaissant. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est ingrat ou qui n'est pas reconnaissant. Combien de vous savez que, en tant que parent, c'est pas de fun de donner à ses enfants et puis les enfants sont jamais satisfaits, une chose de même. Merci Seigneur, moi j'ai des enfants qui sont reconnaissants. Mais savez-vous que je pense qu'en spirituellement parlant, Dieu, notre Père, il aime avoir les enfants reconnaissants aussi, n'est-ce pas? En fait, quelqu'un a dit la différence entre être pourri et béni, c'est quoi? C'est un cœur reconnaissant. Des fois, on est tellement béni, c'est comme, « Ah, Seigneur, je ne mérite pas toute ta bonté. » C'est vrai, on ne mérite pas sa bonté. Mais Dieu dit, « Je t'aime, je veux te bénir. » N'ayez pas peur des bénédictions. Dieu veut vous bénir, il veut vous rendre heureux, mais il veut que vous soyez une source de bénédiction pour les autres qui vous entourent. Ayez un cœur reconnaissant. 1 Timothée 4 dit ceci, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. Tu m'en dis, tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. En fait, c'est très bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu, il y a une condition, pourvu qu'on le prenne avec quoi? Avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je pense qu'on doit être reconnaissant. On devrait rendre grâce à Dieu à chaque fois qu'on reçoit une bénédiction. Et n'oubliez pas que vous êtes plus béni que vous pensez. Vous êtes là ce matin. Vous respirez. Et vous respirez grâce à la bonté de Dieu. Prenons deux secondes maintenant. On va juste remercier le Seigneur pour le souffle en nous. Merci Seigneur que je respire aujourd'hui. Merci Seigneur que je suis en vie. Que même si toutes les choses, les circonstances de la vie ne vont pas toujours dans le bon sens, que tu es toujours sur le trône et tu es digne de louange. Et je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais dans ma vie. Amen. Colossiens 3:15 dit, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez, quoi? Reconnaissant. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Soyez pas comme les enfants d'Israël, sortis de l'Égypte. Ils ont vu la main puissante de Dieu faire tous les fléaux, toutes les plaies et toutes les choses qu'il a fait pour délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage. Ils ont vu les miracles, les signes, les prodiges. Ils ont vu la mer rouge divisée. Ils ont traversé à sec. Ils ont vu les eaux amères devenir douces. Ils ont pu boire. Ils ont vu la manne tomber du ciel à chaque jour. Ils étaient capables de ramasser tout ce qu'ils avaient besoin pour survivre et pour vivre. Ils avaient une colonne de feu de nuit. Ils avaient un nuage de jour à suivre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se plaignaient. Encore de la manne. Je suis tanné de ça. Juste la manne, la manne, la manne. J'aimerais avoir autre chose. Combien de fois, hein? On lit cela, on dit, enfin, c'est ridicule, qu'est-ce qu'ils font? Mais quand on disait, et n'oubliez pas que la Bible dit dans le Nouveau Testament, en Corinthiens 10, que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Si Dieu nous a donné l'histoire des Israélites qui se plaignent, c'est parce qu'ils savaient que nous avons une tendance à se plaindre aussi et que nous avons besoin de changer d'attitude. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Le bonheur, c'est pas une chose qui tombe du ciel. Moi, je crois que ça vient du ciel, par exemple. Mais on marche dans le bonheur, on est heureux dans la vie quand on fait les bons choix et quand nous avons la bonne attitude. Amen. Et la bonne attitude, c'est une attitude d'un cœur reconnaissant. Merci Seigneur. Merci pour la manne. Merci pour la manne. Et vous savez, s'ils auraient continué à manger et à remercier et à donner les actions de grâce à Dieu, sans douter, sans se plaindre, que dans une période de 11 jours, ils auraient traversé le désert et entré dans la terre promise, un pays qui coulait avec le lait et le miel, ils auraient pu avoir toutes les choses en abondance. Mais à cause du fait qu'ils sont avec une mauvaise attitude, ils se plaignaient toujours, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. 40 ans, et ils sont tous morts dans le désert. Moi, je ne veux pas être comme ça. Je veux être reconnaissant. Merci Seigneur, je vais célébrer la vie. Amen. Je vais développer une vie de louange et en plus, je vais avoir un cœur reconnaissant. Ça c'est mon choix. Et ça c'est mon attitude. Et ça c'est mon bonheur. Amen. Alléluia. Alléluia. On va voir d'autres choses dans les semaines à venir, mais si Jean-Charles tu peux venir. Alléluia. Alléluia. Ma verre est à moitié remplie. Et la vôtre? Si encore, aujourd'hui, il y a des gens, quand vous êtes arrivés, vous êtes arrivés avec un verre moitié vide, aujourd'hui, si vous faites le bon choix, si vous prenez la bonne décision et vous changez d'attitude, vous allez pouvoir sortir d'ici avec un verre à moitié plein. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardons pas ce qu'on n'a pas. Regardons qu'est-ce qu'on a. Alléluia. Merci, Père. Seigneur, au nom de Jésus, avec tous les yeux fermés, vous savez, il est impossible de célébrer la vie sans avoir reçu la vie. Et on a déjà mentionné, Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie avec abondance. Et la Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie. Donc si vous êtes là, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que vous n'avez jamais vraiment donné votre vie au Seigneur Jésus. Vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme votre maître, comme votre Seigneur. Et vous n'avez pas l'assurance aujourd'hui d'avoir une place réservée pour vous au ciel. J'ai une bonne nouvelle. Que si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, tu peux prier avec moi aujourd'hui. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, un Seigneur c'est un maître. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre pour lui, pas juste pour vous-même. C'est lui qui va devenir ton maître. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin, avec tous les yeux fermés, qui dirait, oui, moi, ce matin, pasteur, j'aimerais prier cette prière, j'aimerais donner ma vie à Jésus, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin? Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Je te lève la main. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Il y a un autre appel que je veux donner. On a parlé de développer une vie de louange. En Ésaïe, c'était marqué de chanter un chant nouveau. Et moi, je sais une chose. Que des fois, on peut louer le Seigneur et on arrive au bout de notre capacité humaine de louer. Notre vocabulaire est épuisé. On peut dire « tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux » et au moment donné, on veut continuer à louer Dieu, mais on n'a plus les mots. C'est à ce moment-là où Dieu nous donne un don merveilleux qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau, mais pour ceux et celles qui sont déjà sauvés, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, ils peuvent être remplis de l'Esprit-Saint. Le Saint-Esprit déjà en vous, mais il veut être sur vous et il veut vous donner la capacité de vous exprimer en notre langue. Et comme Paul a dit, que ferais-je donc? Je prierai avec l'intelligence, mais je prierai aussi avec l'esprit, c'est-à-dire en langue. Je chanterai avec l'intelligence, mais je chanterai aussi avec l'esprit. Et si vous êtes ici, vous n'avez jamais eu cette expérience, on a des préposés à l'autel qui sont formés pour prier avec vous et vous pouvez recevoir aujourd'hui, avant de partir, ce don si merveilleux qui va vous aider à développer une vie de louange. Comme ça, vous allez pouvoir louer le Seigneur en français, ou si vous parlez anglais ou chinois, n'importe quelle langue, mais aussi, vous serez capable de louer le Seigneur dans une langue céleste que le Seigneur va vous inspirer. Donc, si je sais qu'il y a une personne qui a levé la main, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de cela? Juste lever la main. Alléluia, oui. Donc, je vais demander à vous qui ont levé la main de faire quelque chose. Ça va prendre un peu de courage, mais c'est bon parce que Jésus a dit ceci. Écoutez, que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc, Dieu ne veut pas que nous ayons honte de lui. Il veut que nous soyons fiers de lui. Et aujourd'hui, je vais demander à ceux qui ont levé la main sur une de ces deux invitations, ou si vous n'avez pas levé la main, mais vous aurez dû, juste venir ici en avant. Je vais prier avec vous. Juste venez. Alléluia. Il y avait une autre personne qui a levé la main, je crois, pour le baptême du Saint-Esprit. Viens. Alléluia. Merveilleux. Ton nom encore? Sylvain. Donc, c'est la première fois que tu donnes ta vie. Première fois que Sylvain va donner sa vie complètement à Jésus. Alléluia. La Bible dit que tous les anges des cieux se réjouissent. Meilleure décision que tu as prise. J'aimerais qu'on prie avec lui. Et s'il y a d'autres personnes qui auraient dû venir, juste venez, soyez pas gênés. N'hésitez pas, c'est votre temps. Mais je vais te demander, Sylvain, juste à faire cette prière avec moi. Okay? Et tout le monde, si vous voulez prier avec moi sur cette prière. Père Céleste, je viens à toi. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ
Jésus-Christ
est mon Sauveur,
Sauveur
et mon Seigneur.
Mon Seigneur.
À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi.
Vivre pour toi.
C'est toi qui me donnes la vie.
C'est toi qui me donnes la vie.
La respiration.
La respiration.
Et toutes choses.
Toutes choses.
Merci Seigneur.
Merci.
Que je suis sauvé.
Je suis sauvé.
Mes péchés sont pardonnés.
Mes péchés sont pardonnés.
Je commence une nouvelle vie.
Je commence une nouvelle vie.
Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? C'est bien. C'est bien.